France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
En 1905, Albert Einstein publie 4 articles qui posent les fondements de la physique moderne. Pour célébrer les 120 ans de cette année miraculeuse, on vous propose un feuilleton. Aujourd'hui, premier épisode, premier article, la théorie des quantas. Dès l'adolescence, le physicien est fasciné par la nature de la lumière et par ses différentes controverses scientifiques. Dans ce premier article, qu'il publie en 1905, il pose cette idée révolutionnaire. La lumière est en réalité formée de petits grains, qu'il nomme quantas de lumière, on les appellera plus tard des photons, et il affirme qu'elle se comporte bien comme une onde, mais sous d'autres aspects, elle se comporte comme une particule. Cette hypothèse hardie, pour ne pas dire téméraire, sera vérifiée expérimentalement en 1916 et sera le coup d'envoi de la mécanique quantique. Einstein, l'année miraculeuse, lumière sur la théorie des quantas. Serge Haroche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prix Nobel de physique 2012 pour vos travaux sur la physique quantique et sur les photons. Christian Bracco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences au laboratoire Temps-Espace à l'Observatoire de Paris et maître de conférences à l'INSPE de l'Université Côte d'Azur. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les prémices de la théorie des quantas? Comment Einstein parvient-il à cette fameuse théorie et pourquoi en doutera-t-il tout au long de sa vie? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1955, le physicien Louis de Broglie lui rend hommage.
On ne doit pas oublier que ce fut pour ses travaux sur l'effet photoélectrique et les quantas de lumière que le prix Nobel de physique fut attribué à Albert Einstein en 1921. Je voudrais dire quelques mots au sujet des contributions capitales qu'il a apportées au développement de la théorie des quantas et de ses prolongements. Au moment où Einstein entreprenait ses premières recherches, Planck venait, dans des travaux mémorables, d'introduire en physique la surprenante hypothèse des quantas et de montrer qu'elle seule permettait de retrouver les lois expérimentales de la répartition spectrale du rayonnement d'équilibre thermique dont les théories classiques n'étaient pas parvenues à rendre compte. Le jeune Einstein se livrait alors à de profondes réflexions sur ce difficile sujet. Et en 1905, à 26 ans, l'année même où il jetait les bases de la théorie de la relativité, il proposait de se placer franchement au point de vue le plus radical, en admettant l'hypothèse d'une structure granulaire du rayonnement, il en tirait l'interprétation des lois mystérieuses de l'effet photoélectrique. Ainsi, les deux grandes théories qui règnent aujourd'hui en maîtresse sur toute la physique contemporaine, celle de la relativité et celle des quantas, dans une même année, avec la vigueur géniale d'un esprit exceptionnel, Einstein fondait l'une et faisait faire à l'autre un progrès capital.
Voilà un extrait de l'émission Soirée de Paris diffusée sur la RDF en 1955. Christian Bracco, on entendait dans cette archive, Einstein reçoit en 1922 le prix Nobel pour avoir expliqué l'effet photoélectrique dans ce premier article paru en 1905, mais pas de Nobel pour la théorie de la relativité restreinte ni la théorie de la relativité générale en 1915. Alors que c'est considéré pour Einstein comme son grand œuvre.
Oui, c'est paradoxal. Alors, l'explication traditionnellement avancée par les historiens, c'est que le comité Nobel ne s'engageait pas sur des prix pour des théories, mais mettait l'accent plutôt sur des découvertes expérimentales. Donc ça, c'est l'explication qui circule habituellement. Après, sur la relativité, c'est vrai que la découverte de la relativité générale à elle seule, avec l'explication du périhélie de Mercure, avec la déviation des rayons lumineux observés par Eddington, aurait largement suffi à valider un prix Nobel sur le sujet. Pour moi, ça reste encore un des mystères.
En fait, je crois qu'à l'aune de la majorité des prix Nobel, Einstein en méritait 4 ou 5, lui seul. Et je crois aussi que ce qu'on a entendu de De Broglie a tout dit, finalement. Il a parfaitement résumé tout le problème et l'importance d'Einstein en physique moderne. D'ailleurs, lorsque Einstein a présenté avec du retard, parce que quand il a reçu le prix Nobel, il n'était pas en Europe, il était au Japon. Et il est revenu en Suède pour recevoir le prix Nobel un an après. Et dans son discours d'acceptation du prix Nobel, il n'a pas dit un mot sur l'effet photoélectrique, il n'a parlé que de la relativité. Il a complètement négligé le motif de la décision du comité Nobel et il a parlé de ce qui l'intéressait vraiment à l'époque, qui était la théorie de la relativité générale.
Mais, oui, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, l'Académie des sciences de Lombardie, à Milan, dont Einstein avait été fait membre étranger en même temps que Gustav Mittag-Leffler et que Paul Painlevé en 1922, l'argumentaire porte, pour être membre étranger de l'Académie, porte uniquement sur la relativité restreinte et générale.
Oui. Cet article, en tout cas, sur cet effet photoélectrique, qui est publié en mars 1905, est intitulé « Sur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». C'est un titre assez étonnant, ça, quand même, Christian Bracco. Pourquoi heuristique ? C'est un vocabulaire qu'en général pas employé par les scientifiques.
C'est vrai. Je pense qu'on trouve relativement peu d'articles qui mentionne ce terme. Il y a quelque chose d'approchant chez Maxwell dans des discussions où il dit que son modèle un peu complexe d'éther lumineux est un modèle qui aidera quiconque se l'appropriera. Ce sera un support au raisonnement, ça aidera à penser. Donc là, il y a un peu de l'heuristique dans cette idée-là. Chez Einstein, c'est tout à fait différent, évidemment, et on n'est plus question d'éther du tout. Mais le terme heuristique peut être quelque chose qui aide dans la pensée, dans le raisonnement, pour expliquer les phénomènes donc de production et d'absorption des phénomènes lumineux.
Serge Haroche, une hypothèse sur ce titre.
Je pense aussi que c'est peut-être une critique un peu implicite de Planck, comme vous l'aviez indiqué au début, a introduit le premier la notion de quanta, mais dans l'esprit de Planck, c'était une astuce mathématique en quelque sorte pour essayer de retrouver par le calcul le spectre du rayonnement de chaleur dont De Broglie a parlé et qui n'était pas explicable du tout pour la physique classique. Et pour cela, il avait introduit l'idée que lorsque la lumière et la matière échangeaient de l'énergie, cet échange se faisait par paquet d'énergie qu'on a appelé les quantas. Et ce paquet d'énergie correspondant à un quantum individuel était proportionnel à la fréquence de la lumière. Elle était d'autant plus intense que la lumière avait une fréquence plus élevée. Et la constante de proportionnalité, c'est la fameuse constante de Planck. Donc il a introduit cette constante en physique en 1900. Mais je pense qu'Einstein est le premier à lui avoir donné une signification vraiment physique en la rapprochant des observations directes quand il a interprété l'effet photoélectrique. Cet effet avait été découvert quelques années auparavant à la fin des années 1890-95, et c'est un effet très bizarre. Lorsqu'on éclaire un métal avec de la lumière, le métal, des électrons sont éjectés, les électrons sont des particules qui avaient été découvertes en 1897, mais cette éjection de particules obéit à un phénomène assez contre-intuitif. Ce n'est pas l'intensité de la lumière qui compte, mais surtout sa fréquence. Si la lumière n'a pas une fréquence suffisamment élevée, elle a beau être intense, elle n'éjectera aucun électron. Alors que si la fréquence atteint un seuil, à ce moment-là, même une lumière très faible va éjecter des électrons. Et on peut donner une image métaphorique de ça, en imaginant par exemple que la lumière c'est comme de la neige. Lorsque si chaque flocon de neige est très léger et qu'il tombe sur une surface, par exemple sur un toit en zinc, il va s'accumuler sans commettre aucun dommage sur ce zinc. Par contre, si vous prenez de la grêle qui est de la lumière, de l'eau mais condensée sous forme de grains extrêmement énergétiques, un seul grêlon peut produire un dommage comme un seul photon peut éjecter un électron. Donc il y a cette idée qui est de relier donc quelque chose d'assez théorique, qui était la constante de Planck et des idées que Planck avait introduites de façon mathématique, lui donner un sens physique profond.
On reviendra évidemment sur cet effet photoélectrique découvert en effet par Hertz en 1887 et puis sur les apports de Planck dans les travaux d'Einstein, mais peut-être revenir aussi sur le contexte historique et puis surtout sur le personnage Christian Bracco, parce que Einstein, quand il publie ses articles, il a 26 ans, ces quatre articles qui sont publiés donc entre mars et juin 1905, qui est Einstein plus précisément à cette époque?
Ah, alors, vaste question. Donc depuis 1902, il est expert technique de troisième classe au Bureau des brevets et de la propriété intellectuelle de Berne. Euh, Et il avait commencé une thèse entre 1900 et 1901 sur les forces moléculaires, et il utilisait les phénomènes de capillarité pour en déduire des conséquences. Mais cette thèse, pour des raisons qui ne sont pas connues officiellement, du moins, n'aboutit pas. Enfin, il retire ses droits d'inscription. Donc, il se retrouve de fait un peu en marge du milieu scientifique. Mais il avait déjà publié un premier papier dans Annalen der Physik en avril 1901, dans le même numéro d'Annalen der Physik, dans lequel sort l'article de Max Planck dont on a parlé précédemment.
Qui est la revue d'ailleurs considérée à l'époque comme l'une des meilleures revues spécialisées.
Voilà, tout à fait. Il a un second article qui va paraître toujours sur les phénomènes de capillarité, la pression osmotique à la suite. Et puis après, il va se lancer dans des papiers axés sur la thermodynamique, et la thermodynamique statistique. Et on peut voir que, d'une certaine manière, petit à petit, les quantas vont commencer à se matérialiser, si on peut dire. Parce que dans le troisième papier sur la thermodynamique statistique, sur les fondements de la thermodynamique statistique, à la fin, il teste sa formule de fluctuation sur un cas qu'il estime physique, qui est celui des fluctuations d'énergie du corps noir. Et on peut le lire de deux manières. On peut le lire aussi avec à l'esprit l'idée qu'il teste son hypothèse des quantas. Ça fonctionne si on a cette idée-là, en fait. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que son ami Michele Besso l'a rejoint au bureau des brevets de Berne depuis janvier 1904. Michele Besso, qui était ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Zurich, hein, comme Einstein, il sort de l'ETH l'année où Albert Einstein cherche à y entrer, en 1895. Et c'est son ami, on va dire, ils sont très très liés ensemble, même familialement, hein, il y a des relations après entre les familles. Et la première, je voulais dire ça parce que la première rencontre d'Albert Einstein et Michele Besso s'était faite en 1895 d'après une lettre qu'adresse Michele Besso en 1945 à Albert Einstein. Il vient d'assister à une conférence à Zurich, ou à Berne plutôt, il explique à Einstein, c'est une conférence sur les quantas, il lui dit « N'est-ce pas à nouveau notre point de départ, nos premières discussions entre Newton et Huygens ?» il y a plus de 50 ans.
C'est ça, donc ils sont tout jeunes avec Michele Besso, ils ont à peine 16 ans, qu'ils se passionnent déjà pour ces...
Lui a 16 ans, ouais, Einstein a 16 ans, Michele a 6 ans de plus.
Mais en tout cas, ils sont très jeunes, ils se passionnent pour ces questions autour de la nature, de la lumière. Et on peut peut-être rappeler ensemble, Serge Haroche, quelles ont été les questions et les problématiques de la lumière pour les physiciens dès le XVIIe siècle, avec notamment cette controverse entre Newton et Huygens.
Exactement. Les premières études quantitatives, c'est-à-dire réellement scientifiques de la lumière, ont commencé au XVIIe siècle avec Galilée, Huygens, Fermat en particulier, qui ont joué un rôle important. Et il y avait deux thèses qui s'opposaient. Huygens était le personnage dominant qui pensait que la lumière était constituée d'ondes qui se propageaient dans un milieu, et ces ondes avaient la possibilité d'interférer entre elles, et il expliquait de cette façon-là les propriétés de passage de la lumière d'un corps d'un milieu transparent à un autre, la réfraction de la lumière dont les lois avaient été établies par Snell et par Descartes quelques années auparavant, et donc il basait tout sur une hypothèse ondulatoire. Newton, lui, considérait que la lumière était constituée de particules, et que ces grains de lumière se propageaient en ligne droite et qu'ils étaient défléchis lorsqu'ils passaient d'un milieu à un autre. Ces deux théories faisaient des prédictions contradictoires sur la vitesse de la lumière dans un milieu matériel. Avec l'hypothèse des ondes, Huygens disait que la lumière va moins vite dans un milieu matériel, dans de l'eau par exemple, que dans le vide ou dans l'air. Et Newton était pour le résultat inverse. Il disait qu'au contraire, la lumière devait être comme aspirée dans un milieu matériel et aller plus vite dans le milieu matériel. Et en fait, les expériences qui ont été faites ensuite ont montré que c'était Huygens qui avait raison. Et donc, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'à Maxwell et au-delà, la thèse ondulatoire de la lumière l'a emportée. Et le triomphe de cette thèse, ça a été, point culminant, ça a été les équations de Maxwell qui ont démontré que la lumière était une onde électromagnétique, la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique se propageant à la vitesse de la lumière. Et cette théorie prédisait l'existence de lumière invisible, le rayonnement infrarouge d'un côté, le rayonnement ultraviolet de l'autre. Et toutes les découvertes de la fin du XIXe siècle ont conforté, ont rendu vraiment solidement instauré en physique l'idée que la lumière était une onde. Donc, lorsque Einstein arrive à dire que la lumière a à la fois un comportement ondulatoire et corpusculaire, de façon superficielle, il semble réconcilier à nouveau Newton et Huygens, ce qui est vrai dans certains sens, mais ça ouvre un espace vertigineux parce que cette réconciliation ouvre une boîte de Pandore qui est la physique quantique pour comprendre comment ces deux notions contradictoires peuvent coexister. Il va falloir très très longtemps, il va falloir au moins 20 ans avant que la théorie quantique ne soit vraiment établie. Et je crois qu'il faut qu'on dise, puisqu'on est en 2025, que c'est en 1925, c'est-à-dire exactement il y a 100 ans, que la physique quantique a eu un modèle mathématique rigoureux qui prévaut jusqu'à présent.
Oui, qu'on fête en effet cette année ce centenaire que l'on accompagne d'ailleurs tout au long de la saison dans cette émission La Science CQFD avec des émissions spéciales et notamment une sur Louis de Broglie. On vient de vous poster le lien de notre épisode. Alors là, au début du siècle, hein, pour refaire le point sur cet état des lieux de la physique à cette époque, à la fin du 19e siècle, on comprend à peu près tout, chaleur, chimie, lumière, tous les effets physiques observables, mais il reste deux nuages dans le paysage de la physique, l'éther et le rayonnement du corps noir. Planck va proposer une hypothèse audacieuse qui va entraîner un bouleversement radical du paysage de la physique théorique. Comment ? Restez avec nous.
France Culture. La Science CQFD, Natacha Triot.
En quoi la théorie des quantas d'Einstein est-elle révolutionnaire ? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Serge Haroche et Christian Bracco. Nous parlons pour ce premier épisode de feuilleton de ces quatre articles qui tournent la page de la physique newtonienne. Et nous nous intéressons à ce tout premier article de la théorie des quantas. Alors, comme je disais, au 19e siècle, on n'arrivait pas à expliquer le rayonnement du corps noir. C'est un problème auquel s'attachent les physiciens. Quand on chauffe un objet, il émet un rayon. Vous prenez un morceau de fer, vous le mettez dans le feu, tout le monde sait qu'il devient rouge. Ça, c'est connu depuis des millénaires. Les forgerons ou les verriers savent que la couleur des choses est directement reliée à la température. Mais Planck travaille sur ce problème. Mais sur quoi, plus précisément, Christian Bracco ?
Je me souviens, dans son autobiographie scientifique, Planck parle d'une forme de quête d'absolu. Et ce rayonnement noir lui offrait cette quête-là, puisque finalement, la densité spectrale, la répartition de l'énergie en fonction de la fréquence, ne dépend pas de la nature des corps en présence, mais que de la température de l'enceinte. Et donc, Planck était spécialiste de thermodynamique. Il avait travaillé sur le second principe, il avait fait sa thèse sur le second principe de la thermodynamique, sur l'irréversibilité des phénomènes. Et donc, il va chercher à décrire le phénomène, l'équilibre du rayonnement avec la matière par une entropie qu'il associe au rayonnement. Le rayonnement lui aussi dispose de facultés de degrés de liberté qui lui permettent de maximiser son entropie lorsque l'équilibre est réalisé avec la matière. Et donc il se dit, puisqu'on peut imaginer le type de matière que l'on veut, hein, c'est indépendant, il utilise des résonateurs hertziens, des dipôles hertziens, pour modéliser sa cavité, et ces dipôles absorbent et émettent du rayonnement. Et donc l'aspect statistique va résider dans les phases aléatoires et dans les amplitudes aléatoires de la lumière émise et absorbée. Et à partir de là, il va, un peu par tâtonnement quand même, essayer de regarder quels sont les facteurs qui influent. Il va s'intéresser à la dérivée seconde de l'entropie par rapport à l'énergie, à sa quantité inverse. Il va regarder comment ça se comporte dans les différents domaines de longueur d'onde. Il va faire un collage. Il va trouver une nouvelle loi qui vérifie tous les phénomènes observés pour la distribution de l'énergie en fonction de la fréquence du rayonnement. Et puis, il va importer quelque chose qu'il avait peut-être pas combattu, mais qui n'était pas son cœur de métier, hein, qui était la théorie statistique de Boltzmann, que Boltzmann avait développé pour la théorie cinétique des gaz. Il va l'importer dans ce domaine-là, en décrivant l'entropie statistique du rayonnement associé au corps noir avec sa nouvelle loi. Et la condition, donc, comme l'a dit Monsieur Haroche, mathématiquement, c'est qu'il faut que l'énergie soit discrétisée et apparaisse comme le produit d'une certaine constante par la fréquence.
Il faut dire, je crois que vous avez cité cette phrase au début qu'il y avait un nuage qui obscurcissait le ciel de la physique qui était le problème du rayonnement du corps noir. Le problème, c'est que, avec les équations de Maxwell et la thermodynamique classique, on arrive à une contradiction fondamentale. Le rayonnement du corps noir diverge. Plus la fréquence est élevée, plus on passe de la lumière visible à l'ultraviolet, plus la quantité d'énergie émise est grande. Et donc, on arrive à quelque chose qui est absurde. On arrive à la divergence de l'énergie rayonnée par un corps noir qui devient infinie.
C'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette.
C'est la catastrophe ultraviolette. Et donc, Planck cherchait absolument à éviter cette catastrophe. Et la seule façon qu'il a eue de l'éviter, c'était mathématiquement remplacer une intégrale continue par une somme discrète dont le pas correspondait à ces quantas lumineux. Et il a trouvé cette formule, mais je pense qu'il a toujours été convaincu que c'était une astuce mathématique et qu'il n'y avait peut-être pas quelque chose de vraiment fondamental derrière ça. Et le mérite d'Einstein a été de prendre au sérieux cette notion de quantification, de dire qu'elle n'est pas seulement liée aux échanges d'énergie entre la lumière et la matière, mais que c'est une propriété intrinsèque de la lumière elle-même.
Mais c'est ça, c'est que Planck, qui propose ces petits paquets d'énergie, cette quantification, les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se font par paquets, par quantas, ils sont quantifiés. Ça, cette constante H de Planck, c'est la toute première quantification, mais ce ne sera pas la dernière.
Oui, c'est la première quantification, et ce qui a fait, vous avez demandé tout à l'heure à quel moment la théorie quantique a-t-elle été acceptée. Je pense qu'elle a été acceptée lorsqu'on s'est rendu compte par des expériences qui n'avaient rien à voir directement avec la lumière, qu'on retrouvait pour interpréter les phénomènes la constante de Planck qui jouait un rôle fondamental dans les calculs. Par exemple, quelques années plus tard, Einstein a fait la théorie de la capacité calorifique des corps, c'est-à-dire un corps solide, il faut lui fournir une certaine énergie pour augmenter sa température d'un degré. Cette quantité, ce qu'on appelle la capacité calorifique, eh bien, on en comprend comment elle dépend de la température, que si on admet que les vibrations des atomes dans les solides sont quantifiées comme les vibrations lumineuses. Et la même constante de Planck se retrouve avec sa valeur, qui avait été établie d'abord par l'effet photoélectrique, avec sa valeur pour retrouver les propriétés de la capacité calorifique des métaux. Et ça, il y a une date qui précise quand est-ce que cette notion est devenue largement acceptée. C'est 1911, au premier congrès Solvay, où se trouvaient réunis Einstein et également Marie Curie, Poincaré et d'autres physiciens de début du siècle. Einstein a présenté à cette occasion non pas la théorie des quantas de lumière, mais la théorie des quantas de vibration des atomes pour expliquer la capacité calorifique des corps. Et je pense qu'à cette époque-là, toute l'élite scientifique était convaincue qu'il y avait quelque chose de profond et de vrai dans les quantas.
Christian Bracco ?
Oui. Puis pour poursuivre un petit peu sur ces confirmations expérimentales, on en parlait un petit peu avant l'émission. Hein, il y a aussi des phénomènes plus tardivement l'effet Compton en 1923 qui va montrer que ces quantas ont une certaine quantité de mouvement, qui va mesurer cette quantité de mouvement. En fait, on parle de l'énergie cinétique des électrons émis dans du graphite éclairé par du rayonnement X. Et donc cet effet va confirmer ce que Einstein avait déjà vu en 1916 et probablement avant, sans l'écrire même, qui était qu'il fallait introduire une quantité de mouvement liée à l'énergie des photons. Et on avait de ce point de vue-là une particule qui avait un comportement mécanique.
Je crois qu'il est intéressant de noter à ce sujet que la physique avance lorsque les théories, comme la théorie de Planck ou la théorie d'Einstein, sont confortées ou infirmées par des expériences. Et l'effet photoélectrique est intéressant à ce stade. Dans ce papier de 1905, Einstein, après avoir interprété l'effet photoélectrique comme le fait qu'une particule arrivant, un photon arrivant sur le métal éjecte un électron, avait dit, bon, si on augmente la fréquence de ce photon, il va y avoir de plus en plus d'énergie, et donc la vitesse de l'électron éjecté, l'énergie cinétique de l'électron éjecté va augmenter, et elle va augmenter proportionnellement à la constante de Planck. Et donc, en mesurant de façon quantitative l'effet photoélectrique, on va mesurer la constante de Planck. d'une façon complètement indépendante de celle que Planck avait introduite. Et un physicien américain, Millikan, a entrepris de faire l'expérience. Et au départ, Millikan était hostile. Il ne pensait pas que la théorie d'Einstein était vraie. Et il a été obligé de constater, en faisant son expérience, qu'il retrouvait exactement les prédictions d'Einstein. Et donc, il s'est incliné et il a reconnu que l'effet photoélectrique, tel qu'il était interprété par Einstein, était la bonne interprétation. Donc, c'est cet aller-retour constant entre les modèles théoriques et l'observation expérimentale qui fait vraiment l'essence de la science, pas seulement de la physique quantique, mais de toute la science moderne.
Voilà, entre ces allers-retours entre en effet la physique théorique et la physique expérimentale. Et en effet, dans ce premier article de 1905, Einstein propose une expérience pour expliquer cet effet photoélectrique, Christian Braque. On peut peut-être aussi revenir sur comment Einstein s'y prend pour formaliser cette hypothèse dans sa relation de Planck-Einstein.
Alors, du point de vue théorique ou expérimental, du point de vue théorique, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il part, déjà, il revient à la formule, à la loi de Wien, qu'on appelle la loi de Wien du rayonnement, c'est-à-dire en 1896, Wilhelm Wien avait donné une modélisation, une loi pour expliquer le rayonnement, on va dire, haute énergie du spectre. On n'avait pas encore les données à basse énergie. Et donc, il revient en arrière par rapport à la loi de Planck, mais il traite un domaine dans lequel il peut mieux circonscrire les choses et dans lequel les quantas vont se dégager plus favorablement. Et il a les mêmes relations pour l'entropie fonction de l'énergie du volume. Mais alors que Planck regardait la variation de l'entropie du rayonnement avec l'énergie à volume fixe, Einstein regarde la variation de l'entropie à volume variable avec l'énergie donnée. C'est-à-dire, il change le point de vue, en quelque sorte. Il considère la liberté volumique qu'a le rayonnement. Donc ça, je dirai un mot après. Ça montre qu'il a déjà un petit peu en tête l'idée que la lumière doit se comporter comme des corpuscules. C'est-à-dire qu'il va trouver le moyen de le montrer, mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose à laquelle il travaille depuis longtemps déjà.
Est-ce que Einstein raisonne un peu par analogie que la lumière est comme un gaz de particules lumineuses ?
C'est ça, exactement. C'est la conclusion de sa comparaison avec la variation d'entropie avec le volume d'un gaz parfait, monoatomique, et puis le rayonnement contenu dans l'enceinte, tout à fait. Et par rapport à l'effet photoélectrique, il va faire l'hypothèse que, pour simplifier les choses, que quand un corps métallique est éclairé par la lumière, qui contient suffisamment d'énergie, comme l'a rappelé M. Haroche, hein, donc des longueurs d'onde ultraviolettes, eh bien, l'électron va absorber tout ce rayonnement, et si l'énergie du photon qui arrive est suffisante pour l'extraire du réseau cristallin dans lequel se trouve l'électron, à ce moment-là, il va sortir avec une certaine énergie cinétique. On peut faire l'hypothèse qu'il sort juste sans vitesse, et ensuite on peut le collecter avec une anode qui va l'attirer. Et donc on observera comme ça un courant où on pourra neutraliser le courant en fonction du potentiel que l'on met. Et donc on a une relation directe entre le potentiel entre l'anode et la cathode et le nombre d'électrons qui est éjecté.
C'est là que la constante de Planck intervient.
Exactement.
Plus le photon est énergique, plus la vitesse de l'électron est grande et plus est grand le voltage qui doit permettre ou de l'accélérer vers l'électrode ou de le repousser. Et donc c'est l'essence même des expériences de Millikan qui ont retrouvé la constante de Planck à partir de là.
C'est que la constante de Planck relie le caractère ondulatoire de la lumière à son caractère corpusculaire.
Oui.
C'est ça. Et donc Einstein utilise donc cet effet photoélectrique pour démontrer l'existence des quantas.
Oui, exactement. Il montre que l'interprétation qu'il donne est la seule interprétation cohérente qu'on peut donner à cela. Et ensuite, donc quelques années après, comme je l'ai déjà dit, il introduit le fait que n'importe quelle vibration, par exemple les oscillations d'un atome dans un réseau cristallin, doivent être également quantifiées, et que c'est ce qui permet d'expliquer la variation de la chaleur spécifique des solides en fonction de la température.
Christian Braque, à cette époque aussi, enfin même un peu avant, en 1901, Einstein a aussi pris connaissance des travaux de Lenard hein, sur le rayonnement cathodique, aussi appelé l'effet photoélectrique.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que 1901 semble être un peu une année charnière. Einstein est à Milan pendant les périodes de césure semestrielle de l'ETH, même s'il est déjà plus à l'ETH. Hein. Mileva y est encore, sa fiancée. Mais lui, il retourne dans sa famille en mars-avril, notamment, et en septembre-octobre. Dans les lettres à Mileva, on voit que au même moment, il va revenir sur le problème de l'émission lumineuse. Donc il va reprendre un peu les travaux de Wien, les idées de Wien, sur la théorie de l'émission de lumière par des molécules, par de la matière agitée. Au même moment, il prend connaissance de l'article de Planck. Une hypothèse dont il dira plus tard qu'il a cherché pendant 5 ans à la reformuler. Donc ça nous ramène à peu près à cette période-là. Et un mois plus tard, en mai, il écrit à Mileva qu'il a été transporté de joie à la lecture d'un article de Philippe Lénard sur l'effet photoélectrique, dans lequel Philippe Lénard résout les problèmes des discussions qu'il y avait à l'époque pour savoir si l'émission d'électrons pouvait être liée à du gaz résiduel, parce qu'il fait ses expériences dans le vide. Et donc, le fait que des électrons sont arrachés par la lumière ultraviolette devient une caractéristique du phénomène et n'est pas liée à un intermédiaire, en quelque sorte. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de chaîne qui se met en place entre l'émission, entre la quantification de quelque chose, mais on ne sait pas trop en quel terme encore, et puis l'effet photoélectrique qui apparaît, et on peut se demander pourquoi il était transporté de joie à la lecture de ça. Donc, on a presque envie de penser que... Il a déjà peut-être un peu entrevu une solution possible du problème, j'y vais avec beaucoup de précautions, parce qu'on n'a pas de preuves directes de ça, mais qu'il faut attendre qu'il y ait l'outil qui permette de mettre en évidence ces quantas pour que ça se fasse en 1905.
Et en effet, les mots exacts dans cette lettre à sa fiancée, je le cite, « Je viens juste de lire un article formidable de Lénard sur la production de rayons cathodiques par la lumière ultraviolette. Ce morceau de choix m'a fait une telle impression, il me met dans un tel bonheur et une telle joie qu'il faut absolument que je t'en fasse profiter. » On continue de profiter de ce premier article d'Einstein et de cette théorie des quantas. Restez à l'écoute.
Qui est ce savant fou ?
Einstein, Stem de Koss en direct sur France Culture, car nous parlons de l'année miraculeuse d'Einstein en 1905. On en parle avec nos deux invités du jour, Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012 pour ses travaux sur la physique quantique et les photons, et Christian Bracco, historien des sciences au laboratoire Temps-Espace à l'Observatoire de Paris et maître de conférence à l'INSPE de l'Université Côte d'Azur. On vient de voir comment l'hypothèse des quantas de Max Planck fut reprise et complétée par Einstein en 1905 pour interpréter l'effet photoélectrique. Einstein va donc reformuler des travaux dont il avait connaissance. Il dit lui-même que pendant 5 ans, il a essayé de reformuler les idées de Planck. Alors, à cette époque, quelle est la réception de cet article, Christian Bracco?
La réception, vous savez, les physiciens, tant qu'il n'y a pas une expérience dont la théorie rend compte de manière univoque, hein, dont elle est la seule à pouvoir rendre compte, peuvent accueillir les théories, mais ça reste quelque part des hypothèses. Einstein savait que son hypothèse était révolutionnaire. Moi, j'ai pas d'indication Sur la relativité, j'ai plus d'informations sur la réception, avec tout un cercle qui se met en place autour de Planck. Sur les quantas, Einstein va continuer à y travailler, mais je pense essentiellement seul, en 1906, avec la constante de Planck qui apparaît dans les solides, les vibrations des solides. Donc jusqu'à 1911, le congrès de Solvay, effectivement, qui est consacré spécifiquement au problème des quantas. Et puis 1912-1913 avec l'atome de Bohr, voilà, qui joue un rôle également dans cette acceptation.
L'atome de Bohr joue un rôle essentiel parce que Bohr a compris que le quantum de Planck, il avait la dimension d'un moment cinétique, c'est-à-dire la dimension d'une quantité qui mesure la quantité de rotation qu'il y a dans un corps, et il a eu l'idée de dire que l'électron dans l'atome d'hydrogène a son moment cinétique qui est quantifié en multiple du quantum de Planck. Et avec cette simple hypothèse, il retrouve le rayonnement, les fréquences de rayonnement de l'atome d'hydrogène, les lois de Balmer, de Lyman et de Rydberg, qui avaient été démontrées, qui avaient été découvertes au XIXe siècle, le fait que le spectre émis par les atomes est discret, mais on n'avait aucune explication de ça. Et Bohr, en se basant sur la valeur de la constante de Planck, retrouve les valeurs exactes des fréquences des atomes, et donc c'est vraiment le début de la physique atomique moderne. Bohr dit que pour comprendre l'émission et l'absorption des atomes, la lumière par les atomes, il faut admettre que l'électron saute d'une orbite à l'autre en émettant ou en absorbant un photon. Et en 1916, Einstein essaye de se servir de ce modèle pour retrouver la loi de Planck. Et il s'aperçoit que tenir compte uniquement de l'absorption et de l'émission spontanée des atomes n'est pas suffisant. Il faut ajouter un processus qu'on appelle l'émission stimulée, qui fait que si un photon tombe sur un atome excité qui correspond à la, dont sa fréquence correspond exactement à la transition entre l'état excité et un état plus profond, alors un nouveau photon va être émis, il va y avoir amplification de la lumière, et cette amplification, c'est l'idée fondamentale du laser. Le laser n'apparaîtra que 40 ans plus tard, mais l'idée est déjà là, et cette idée, elle vient d'une réflexion profonde sur la loi de Planck. Comment retrouver la loi de Planck à partir du moment où on a quantifié les états d'énergie de l'atome? Donc vous voyez, cette période de 1900 à 1925, c'est une période de foisonnement de nouvelles idées qui viennent de façon disparate, mais toutes convergent vers l'idée que la constante de Planck joue un rôle essentiel. Et c'est en 1925 que ça va vraiment se concrétiser. Et De Broglie a joué un rôle important là-dedans. Parce que De Broglie a repris l'idée d'Einstein sur la dualité entre ondes et corpuscules pour la lumière, et il a eu l'idée de génie de dire « mais cette dualité, elle doit exister aussi pour la matière ». Et les atomes, les électrons qu'on considère comme étant des particules doivent aussi avoir un aspect ondulatoire. Et ça a été le départ de la mécanique ondulatoire. Schrödinger a rendu ceci quantitatif en découvrant l'équation qui décrit la propagation de ces ondes. Et ça, c'est le point de départ vraiment de toute la physique moderne.
En effet, comment en 25 ans, le formalisme de la mécanique quantique se met en place. Et en effet, 1913, Niels Bohr, qui propose cette nouvelle représentation de l'atome, qui fait, comme vous venez de nous dire, la première théorie quantique d'un atome. Ça, on peut dire que le modèle de Bohr, c'est une victoire pour la théorie des quantas, Christian Bracco.
Clairement. Je voulais juste dire, pour rebondir encore sur ce qui a été dit, que pour la réception, par exemple, en 1909, Planck, lui, essaie une hypothèse de seconde quantification dans laquelle il va doter ces fameux résonateurs d'une échelle d'énergie qui absorbe du rayonnement continu maxwellien et qui passe à des niveaux d'énergie discrets. Donc c'est une hypothèse de seconde quantification, donc ce qui veut dire qu'il ne fait pas sien les hypothèses d'Einstein de 1905. Ouais. Donc voilà, ça va un peu dans...
Ce qu'on peut dire aussi, puisque vous parlez de la reconnaissance, je ne sais pas dans quelle mesure la théorie des quantas a été tout de suite reconnue, mais dont on peut être sûr, c'est que Einstein, en tant que physicien génial, a été reconnu. En fait, en 1913, Planck et ses collègues sont venus voir Einstein à Zurich et lui ont proposé le poste le plus prestigieux possible, qui était venir à Berlin et devenir membre de l'Académie prussienne des sciences pour son travail. Et dans la lettre de recommandation que Planck a faite pour l'Académie, je crois, il disait quelque chose comme évidemment, Einstein parfois fait des erreurs, son hypothèse sur la quantification de la lumière n'est pas très solide, mais il est tellement intelligent qu'on peut lui pardonner certains errements. Et ce qui est assez amusant, c'est que malgré cela, il a reçu le prix Nobel pour les quantas et pas pour la relativité, parce que pour le comité Nobel en 1922, ce qui était le plus révolutionnaire et le moins facilement admissible, c'était la relativité et pas les quantas. Donc finalement, les deux grandes idées d'Einstein ont mis du temps à être vraiment reconnues. Par contre, ce qui a tout de suite été reconnu, c'est qu'il était un scientifique absolument hors du commun.
Et donc, pardon, pour effectivement, sur l'atome de Bohr, effectivement, les transitions des électrons entre des orbites avec des niveaux d'énergie différents en fonction de l'intensité de la lumière qui arrive. Donc, l'électron va monter d'un niveau excité dans les couches en énergie s'il absorbe de la lumière qui a la bonne fréquence, ou au contraire, en se désexcitant, il va émettre de la lumière de même longueur d'onde. C'est des choses qui expliquent les spectres de raies, en fait, notamment de l'atome d'hydrogène, hein, le premier exemple, mais. Donc, M. Roche pourrait dire d'autres éléments là-dessus.
Ce que je veux dire, c'est que cette notion de quantification, elle date du 19e siècle. On avait ces raies discrètes, on les avait observées, mais on ne les comprenait pas. Et la théorie des quantas est venue de l'émergence de la compréhension du fait que le monde n'est pas que la physique n'est pas continue mais discontinue.
Côté réception et surtout côté confirmation expérimentale, donc on a en 1916 l'expérience de Millikan qui annonce qu'Einstein avait prédit exactement les résultats observés, et puis surtout l'expérience qui met tout le monde d'accord, c'est l'expérience de Compton en 1923, Christian Bracco.
Oui, on a un petit peu évoqué tout à l'heure effectivement l'expérience de Compton qui consiste à éclairer du carbone, du graphite avec des rayonnements X et de voir sur les électrons le rayonnement qui va éjecter des électrons, voir un petit peu quelle est l'énergie cinétique de ces électrons et faire un bilan de quantité de mouvement et d'énergie et montrer la nécessité d'introduire une quantité de mouvement aux photons et donc ça se voit aussi sur la variation de longueur d'onde du rayonnement quand il est diffusé. En fait, il y a un rougissement qui correspond en fait à une perte de l'énergie du système et un transfert de quantité de mouvement à la matière.
Voilà, ce sera 1923 où les quantas vont être acceptés dans leur globalité après ces mesures des quantas par Compton. Première vérification de l'existence des quantas. Alors, du côté de l'effet photoélectrique et de sa manipulation, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'expériences qui reproduisent cet effet photoélectrique en laboratoire. Pour le reportage du jour, nous sommes rendus dans l'un d'entre eux, et c'est avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allé au laboratoire de physique des solides de l'Université Paris-Saclay, où ils expérimentent un effet photoélectrique dans des conditions un peu particulières. À terme, cette expérience doit permettre de détecter un photon unique.
Tout à fait. En temps normal, il faut un grand nombre de photons pour produire un seul électron. Mais cette expérience se déroule dans un régime particulier pour faire en sorte que chaque électron soit émis par l'arrivée d'un seul photon. Ainsi, si les chercheurs parviennent à détecter un électron unique dans leur expérience, ils pourront affirmer qu'en entrée, il y avait un photon unique. Mais ce qui rend l'expérience remarquable, c'est que la lumière qui est envoyée en micro-ondes. C'est donc une lumière invisible à l'œil nu, très peu énergétique. C'est d'ailleurs ce qui rend la manipulation si complexe. Mais c'est aussi ce qui pourrait la rendre très utile en informatique quantique et pour tenter de détecter une hypothétique matière noire. Jérôme Estève est chercheur au laboratoire de physique des solides.
Donc ici, on fait des expériences de physique quantique à très basse température. Là, ce que vous voyez devant vous, donc c'est un cryostat à dilution qui nous permet de refroidir des échantillons à des températures très basses, donc de l'ordre de 20 millikelvin. Et donc là, le bruit de fond que vous entendez, c'est ce qui nous permet donc de refroidir ce frigo.
Est-ce qu'on peut retracer le trajet du photon jusqu'au cryostat, puis de l'électron qui est détecté jusqu'à nouveau à ces appareils de mesure?
Alors, donc le photon, oui, donc il va partir d'une source micro-ondes qu'on voit ici. Il va partir donc dans ces câbles coaxiaux qui arrivent en tête de cryostat, qui après descendent tout au fond. Et donc en fait, sur ce trajet, on va très fortement atténuer le signal micro-ondes, pour à la fin atteindre un régime où il n'y a que quelques photons qui arrivent sur l'échantillon par seconde. Ces photons vont créer un courant d'électrons, et ce courant d'électrons, lui, va être mesuré parce qu'il va donc remonter à travers un autre type de câble, être amplifié en tête de cryostat et mesuré ensuite par d'autres appareils qu'on voit ici à droite. L'expérience, elle va se passer juste dans un tout petit volume là, qui est tout au fond du cryostat, qui est donc un petit échantillon donc qui est micro-fabriqué.
Ce petit échantillon, il est enfermé dans une boîte en métal qui ne mesure que quelques centimètres et il est relié à plusieurs câbles. Si on ouvre la boîte, au centre d'une structure en forme de sablier, se trouve un minuscule circuit imprimé en silicium dont les détails ne mesurent que quelques centaines de nanomètres. C'est sur ce circuit que se passe l'effet photoélectrique. Et les résultats de cette expérience, on peut les voir sur un écran d'ordinateur où une courbe violette évolue peu à peu jusqu'à former des marches.
Alors là, en fait, le petit film qui défile, c'est pas en fonction du temps, c'est en fonction de l'intensité, donc du nombre de photons qu'on envoie sur les électrons. Donc ici, dans notre expérience, les électrons passent d'une électrode métallique à une autre électrode métallique. Et donc, ils créent un courant dans un circuit qu'on peut mesurer. Et donc, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est ce courant d'électrons qui apparaît quand on envoie donc de la lumière sur l'échantillon. Donc en fait, les électrons, lorsqu'ils passent ils doivent passer d'une électrode à l'autre, ils doivent franchir une marge de potentiel qu'on peut ajuster. Et en fait, ça correspond à l'axe horizontal sur la courbe. Et ce qu'on voit très clairement, c'est des marches. Donc la première marche apparaît quand l'électron peut passer d'une électrode à l'autre en absorbant un photon. Et en fait, la deuxième marche, elle apparaît quand l'électron passe d'une électrode à l'autre en absorbant maintenant deux photons. Et on voit même une troisième marche qui apparaît. Donc là, ce qu'on voit très directement, c'est le fait que lorsqu'on illumine un échantillon, l'énergie qui est transmise à la matière par la lumière est quantifiée sous forme de quanta. Et ça se voit très directement parce qu'on obtient des marches qui ont toutes la même largeur. Et là, vous devez me croire, mais la largeur de ces marches est très exactement donc la constante de Planck fois la fréquence de la lumière qu'on envoie, comme prédit par Einstein.
Un paramètre important dans votre expérience, c'était que vous vous étiez mis une difficulté supplémentaire en voulant la faire, en envoyant de la lumière en micro-ondes, donc une lumière beaucoup moins énergétique que celle d'autres expériences où on peut utiliser des lasers ou ce genre de choses.
Oui, voilà. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de détecter des photons micro-ondes uniques pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que ces photons sont utilisés maintenant en information quantique comme médiateurs d'un nouveau type d'information dans des ordinateurs à base de circuits supraconducteurs. Donc c'est intéressant de pouvoir détecter ces photons uniques. C'est aussi, ça permet d'enrichir un peu la boîte à outils du physicien pour avoir un détecteur de photons uniques dans un régime de fréquence où il est difficile de faire ces mesures. Donc ça peut aussi avoir des applications pour d'autres recherches, notamment dans la recherche de matière noire. Il y a des gens qui sont intéressés pour pouvoir détecter des photons dans le régime micro-ondes pour peut-être voir de la physique nouvelle et notamment tester certains modèles de matière noire.
Qu'est-ce qui fait que votre expérience, elle permet de détecter un photon unique ?
On n'arrive pas encore à détecter vraiment le photon unique. Enfin, là, c'est le type d'expérience qu'on est en train d'essayer de faire maintenant, donc ce qui est dans le frigo actuellement. Là, on a montré qu'un photon donnait un électron, mais on l'a montré que de manière statistique, de manière moyenne. Voilà, donc pour y arriver, maintenant, il faut qu'on mesure l'électron unique qui a été créé par le photon unique. Et donc il faut qu'on soit dans un régime où on puisse détecter une charge unique. Donc ça, on sait que c'est possible. Et donc il faut qu'on arrive à mettre ensemble ce qu'on a développé pour la conversion d'un photon en un électron avec des dispositifs qui permettent de mesurer la charge d'un électron unique dans un dispositif à très basse température.
Au-delà des applications, cette manipulation est intéressante d'un point de vue conceptuel. Dans la plupart des expériences qui mettent en évidence l'effet photoélectrique, paradoxalement, il n'y a pas besoin de quantifier la lumière. Autrement dit, il n'y a pas besoin de faire entrer en jeu le concept de photon. On peut traiter la lumière uniquement comme une onde. Mais dans cette expérience sur l'effet photoélectrique, menée au laboratoire de physique des solides, il est indispensable de considérer la lumière en tant qu'elle est quantifiée, c'est-à-dire composée de photons.
Je pense que c'est une des premières expériences d'effet photoélectrique où en fait on a vraiment absolument besoin de la notion de photon pour comprendre quantitativement les résultats de l'expérience. Donc c'était pas vraiment cet effet qui nous intéressait en premier lieu dans la manip. Ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était qu'on pouvait convertir ces photons très peu énergétiques en électrons de manière très efficace. Et pour ça, en fait, on a dû se mettre dans un régime où tout se passe comme si le photon était un peu bodybuildé. Il a un effet plus grand sur la matière qui l'entoure, sur les électrons qui l'entourent. Et c'est le fait que cette interaction lumière-matière soit boostée, soit augmentée. C'est ça qui fait qu'on est obligé. On peut pas se passer d'une description complètement quantique de la lumière. Et donc c'est assez satisfaisant intellectuellement d'arriver dans ce régime où L'interaction lumière-matière doit être décrite de manière complètement quantique, aussi bien pour la lumière que pour la matière, ce qui est en fait rarement le cas. C'est vrai que souvent, en fait, il suffit de quantifier un des deux, et souvent on quantifie que la matière, et ça marche très bien pour la plupart des expériences.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Serge Haroche, les pièges à photons, c'est quelque chose que vous connaissez bien, voire très bien même.
Oui, en effet. C'est difficile de se rendre compte d'une expérience à la radio, parce qu'il décrit un dispositif expérimental, un écran sur lequel des courbes apparaissent, et il faut vraiment avoir de l'imagination pour pouvoir le reconstituer. Apparemment, l'expérience décrite ici, c'est une expérience qui décrit l'interaction d'un système quantique matériel, qui est un circuit supraconducteur, avec des photons micro-ondes. Et ce sont des expériences qui, effectivement, intéressent les scientifiques maintenant dans le cadre de l'information quantique. On essaye de coder l'information dans des états quantiques de particules ou dans des états quantiques de lumière. Et en fait, ce sont des expériences qui ont été faites avant d'être faites avec des circuits supraconducteurs, avec des atomes dans des cavités. Et ça, ce sont les expériences que j'ai effectuées avec mes collègues dans les années 90-2000. Dans ces expériences, il était effectivement indispensable de quantifier à la fois les atomes et les photons. Et on est capable de suivre la vie et la mort d'un photon unique dans une cavité. Et il y a un point qui est peut-être qui différencie ces expériences de celles qui sont décrites ici. Dans les expériences que nous faisions, le photon n'était pas détruit. Dans l'effet photoélectrique, lorsque l'électron est éjecté, le photon est détruit puisque son énergie a été utilisée pour éjecter l'électron. Alors que dans les expériences que l'on fait, ce sont des expériences d'interférence plus subtiles, dans lesquelles l'existence d'un photon conduit l'atome dans un niveau ou dans un autre par un effet d'interférence quantique. Et lorsqu'on détecte l'atome qui nous prouve que le photon était là ou n'était pas là, le photon est toujours là ou pas là. C'est-à-dire que on peut mesurer un très grand nombre de fois le même photon, ce qui n'est pas le cas dans l'effet photoélectrique ordinaire. Mais toutes ces expériences subtiles qui se font au niveau d'un photon unique, qui permettent de voir, par exemple, quand un photon disparaît dans la cavité parce que les miroirs sont imparfaits, eh bien, ces expériences-là nécessitent, comme il était dit dans le reportage, la quantification à la fois de la matière et de la lumière. Il y a un côté inconsistant à quantifier simplement l'une des parties du système. C'est vrai que des expériences peuvent se comprendre comme cela, mais fondamentalement, le monde entier est quantique. Et pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut quantifier de façon cohérente à la fois la matière et la lumière. C'est d'ailleurs ce que De Broglie avait intuitivement vu dès le milieu des années 20, lorsqu'il avait dit que le dualisme onde-corpuscule ne s'applique pas simplement à la lumière, mais s'applique aussi à la matière.
Il y a une problématique qui n'est pas résolue dans l'article de mars 1905 sur les quantas. Christian Bracco, c'est la vitesse des quantas.
Oui, parce que Einstein a utilisé une méthode analogique pour prouver l'existence de ces quantas dans la limite du spectre, on va dire, haute fréquence. Cette méthode analogique ne donne pas d'indication évidente sur la vitesse des particules émises par un atome. Or, quand on a en tête la théorie électromagnétique de Maxwell, la vitesse d'une onde ne va dépendre que des caractéristiques du milieu et pas de l'état de mouvement de la source. Quand on a en tête une théorie de l'émission où on se dit qu'un atome, une molécule va émettre un photon, on peut se demander est-ce que cette vitesse d'émission dépend ou pas de la vitesse qu'a initialement l'atome. Disons que c'est une question qui a priori est ouverte. Alors il y a des historiens qui disent que Einstein n'en parle pas parce que pour lui c'est évident. Moi je pencherais plutôt en faveur du fait que s'il n'en parle pas, c'est qu'il n'a pas encore trouvé tout à fait le moyen de le mettre en avant. Et d'une certaine manière, mais ça c'est une conviction personnelle, mais on en a parlé avec M. Haroche avant l'émission, il y a des liens entre la relativité et les quantas, et c'est peut-être aussi le second postulat qui est là pour préciser une propriété spécifique.
Et voilà, et vous venez de nous faire un teasing parfait pour nos prochains épisodes de ce feuilleton. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour prolonger l'écoute, vous pouvez vous tourner, chères auditrices, chers auditeurs, vers votre ouvrage Christian Bracco, Quand Albert devient Einstein, paru aux éditions CNRS en 2017. Tout de suite, on change de sujet, on vous parle des tremblements d'étoiles à neutrons. C'est la chronique avec science.
Peut-on étudier les atomes en observant les tremblements d'étoiles ? Vous savez ce que sont les tremblements de terre, bien sûr, mais connaissez-vous les tremblements d'étoiles ? C'est tout simplement le nom qu'on donne à l'activité sismique des astres.
Et dans un papier publié dans la revue Physical Review C, des scientifiques proposent de se servir des observations des tremblements d'étoiles à neutrons pour étudier les atomes. Quand une étoile massive, c'est-à-dire qui fait plus de 8 à 10 fois la masse du Soleil, a épuisé tout son carburant, elle finit par s'effondrer sur elle-même. Et c'est des résidus de ce genre d'effondrement que naissent les étoiles à neutrons. Ce sont des étoiles petites, extrêmement denses, avec beaucoup de matière écrasée donc dans un petit volume, et qui sont essentiellement composés de neutrons. Dans l'univers, les objets qui ont de telles caractéristiques sont très rares et donc très intéressants à étudier. Sandrine Courtin est professeure aux universités de Strasbourg et de York en Angleterre, directrice de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien et spécialiste de l'astrophysique nucléaire.
L'intérêt de ces étoiles à neutrons, c'est finalement d'être comme un laboratoire pour ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Donc, on parlait de matière tout à l'heure, donc le noyau qui est composé de neutrons et de protons. Certains noyaux très intéressants étudiés actuellement sont des noyaux riches en neutrons. Et finalement, c'est dans l'univers un autre endroit où trouver de la matière riche en neutrons et avoir des informations sur les noyaux atomiques. Donc ces étoiles à neutrons, c'est de petites étoiles, mais ce sont des objets évidemment immenses par rapport au noyau. Et dans ces objets immenses, on peut trouver des contraintes sur ce qu'on peut comprendre des noyaux. On peut montrer assez facilement que ces étoiles à neutrons peuvent être décrites de façon un peu globale en utilisant des modèles nucléaires, en considérant que dans un noyau, il y aurait uniquement des neutrons. Et à l'inverse, ce sont de vrais laboratoires, je dirais des micro-laboratoires, pour tester ce que l'on connaît de la matière nucléaire. Et dans cet article, c'est un exemple de l'utilisation de ces étoiles à neutrons pour mieux décrire théoriquement la matière nucléaire et ce qu'on connaît du noyau, en fait.
Quand on parle de matière nucléaire, il ne s'agit pas ici de matière radioactive, hein, mais de la matière qui compose les noyaux des atomes, c'est-à-dire les protons et les fameux neutrons. Alors pour comparer les noyaux des atomes aux étoiles à neutrons, il faut déjà pouvoir étudier ces dernières, ce qui est très difficile parce qu'elles sont très loin. Et c'est là qu'intervient donc l'astérosismologie. Ça désigne tout simplement l'étude des phénomènes sismiques des étoiles, donc leurs vibrations. C'est une discipline très intéressante puisqu'elle nous donne des informations sur ce qu'il se passe à l'intérieur des étoiles, un environnement dont on ne sait pas grand-chose. Revenons-en à nos atomes maintenant. Dans ce papier, les scientifiques ont testé une théorie nucléaire dite effective chirale. Sans rentrer dans le détail, elle permet de décrire les forces à l'intérieur des noyaux selon la densité de ces noyaux. Et justement, on l'a dit, les étoiles à neutrons sont des reproductions à grande échelle de ces noyaux atomiques. Ça nous permet donc de tester la validité de la théorie dans plusieurs conditions de densité. En temps normal, l'étoile est très dense, mais parfois il y a des ondulations sismiques, des vibrations entre la croûte externe de l'étoile et son cœur, et à ce moment-là, la densité est plus basse.
Ces oscillations cœur-croûte vont être provoquées, allumées, au moment de la rencontre d'une autre étoile à neutrons. L'idée de leur théorie effective chirale, c'est de décrire les propriétés des noyaux atomiques. Et quand on a une description théorique, elle se doit de décrire toutes les densités que l'on peut obtenir, donc les fortes densités et les basses densités. Une théorie, elle décrit ce que l'on observe. Et c'est très bien si elle prédit aussi ce que l'on n'a pas encore observé ou ce que l'on ne peut pas observer. Et là, on se trouve avec un sous-laboratoire des étoiles à neutrons où on peut obtenir des densités qui sont compliquées à obtenir dans d'autres objets physiques. Ce que je trouve, moi, en tant que physicienne, intéressant et même joli dans ce type de papier, c'est qu'on nous montre clairement comment des objets parmi les plus petits qu'on peut imaginer, comme les noyaux, sont liés avec ce que l'on observe dans des objets immenses comme les étoiles ou les rémanents ou les résultats d'effondrements d'étoiles massives.
Et cet oxymore qui allie l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cette publication. Je trouve que son caractère hautement poétique rend hommage à la beauté des sciences fondamentales. Par ailleurs, mieux comprendre les étoiles, c'est aussi en savoir plus sur nos origines, puisque c'est au cœur des astres que sont fabriqués les atomes qui nous constituent. Pour le moment, il subsiste des imprécisions sur les observations, mais les futures missions spatiales devraient nous permettre de pousser plus encore nos connaissances de ces étoiles.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à Anna Holweck à la réalisation et à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.